Charles Dickens, Dombey et fils, tome 1, traduction par Madame Bressan, sous la direction de Pierre Lorrain, 1846-1848. Chapitre 1er, Dombey père et Dombey fils. Dans un coin de la chambre, où on l'avait laissé peu de jours, était assis dans un grand fauteuil, près du lit, Dombey père. Dombey fils reposait, chaudement enveloppé, dans un petit berceau d'osier, placé avec soin sur un sofa peu élevé, juste en face et tout près du feu. On eût dit un petit gâteau, auquel il fallait faire prendre couleur pendant qu'il était encore tendre. Dombey père avait environ 48 ans. Dombey fils environ 48 minutes. Dombey père était un peu chauve, un peu rouge, et quoiqu'il fût grand et bien fait, il avait l'air trop dur et trop guindé pour plaire à première vue. Dombey fils, lui, était tout à fait chauve, tout à fait rouge, et quoiqu'il fût, comme d'ordinaire et incontestablement un bel enfant, toute sa petite personne, à ce moment encore, était quelque peu ramassée et bigarrée de plaques variées. Le temps et le souci, son frère, avaient laissé des marques sur le front de M. Dombey père, comme le forestier marque un arbre destiné à tomber au jour voulu. Le temps et le souci, jumeaux impitoyables, qui marchent à grands pas à travers leurs forêts humaines, marquant l'un, marquant l'autre à mesure qu'ils avancent. 1000 petites rides se croisaient aussi en tous sens sur la figure de Dombey fils. Mais ces rides, le temps trompeur, devait se plaire à les adoucir et à les effacer. Du plat de sa faux, comme pour faire ensuite des entailles plus profondes. Dombey père était transporté de joie. C'était un événement depuis si longtemps attendu. Il secouait la lourde chaîne d'or, suspendue à son gilet sous un bel habit bleu, dont les boutons brillants reflétaient à distance la faible clarté du foyer. Dombey fils, ses poings serrés comme une pelote, semblait à sa petite manière se carrer glorieusement dans la vie, où il venait d'entrer d'une façon si inattendue. Allons, Madame Dombey, la maison sera encore une fois, non seulement de nom, mais de fait, maison Dombey et fils. Dombey et fils. Ces paroles de M. Dombey produisirent sur lui-même un effet si agréable qu'il fit suivre d'un mot de tendresse le nom de Madame Dombey. Il hésita bien quelque peu à la vérité, n'étant guère accoutumé à cette formule. « Madame Dombey, ma chère, » dit-il. Une rougeur passagère causée par la surprise colora légèrement les joues de la malade qui leva les yeux vers son mari. « On le baptisera du nom de Paul, madame Dombey. Cela va sans dire. » Elle répéta faiblement ces derniers mots, ou plutôt sembla les répéter par un mouvement des lèvres et referma les yeux. « C'est le nom de son père, Madame Dombey. » Et de son grand-père aussi. Ah, si son grand-père vivait encore! Et elle redit du même ton que la première fois, « Dombey et fils ». L'unique pensée de la vie de M. Dombey était tout entière dans ces mots. La terre était faite pour le commerce de la maison Dombey et fils, le soleil et la lune pour l'éclairer. C'était pour porter ces vaisseaux que les rivières et les mers avaient été créées. Les arcs-en-ciel, pour elles seules, promettait le beau temps. Les vents ne soufflaient que pour favoriser ou pour contrarier ces entreprises. Enfin, les étoiles et les planètes tournaient dans leurs orbites pour conserver l'équilibre au système dont elle était le centre. Les abréviations les plus ordinaires prenaient aux yeux de M. Dombey de nouvelles significations et n'avaient de rapport qu'à sa maison de commerce. AD ne signifiait nullement Anno Domini, mais bien « Anno Dombey et fils ». Dans la carrière qu'il avait à fournir entre la naissance et la mort, il s'était élevé, son père l'avait fait avant lui, de la position de Dombey fils à celle de Dombey père. Et, depuis une vingtaine d'années, il était le seul représentant de la maison de commerce. Sur ces 20 années, il avait été marié 10 ans à une femme qui, suivant quelques-uns, avait pu lui donner sa main, mais non son cœur. Le bonheur de cette femme appartenait au passé, et son âme, brisée par une passion déçue, ne trouvait plus de douceur qu'à accomplir avec résignation les devoirs que lui imposait le présent. Il n'était pas probable que ces cancans de la ville fussent jamais parvenus aux oreilles de M. Dombey, que la chose touchait de si près. Mais lors même qu'il en aurait eu connaissance, personne au monde n'aurait été sur ce sujet plus incrédule que lui. Les Dombey, père et fils, avaient souvent travaillé dans les cuirs, mais dans les cœurs, jamais. Ils laissaient cette denrée de fantaisie aux filles, aux écoliers et aux romans. D'ailleurs, à tous ces propos, M. Dombey avait à opposer de bons arguments. « Une alliance avec moi, Dombey, doit, par la nature même des choses, être un honneur et une distinction pour toute femme de bon sens. » L'espoir de donner naissance à un nouvel associé d'une maison comme la mienne ne peut manquer d'éveiller des idées de gloire et d'ambition dans le cœur de la femme la moins ambitieuse. Madame Dombey s'est mariée sous cette convention. Elle est devenue partie intégrante et nécessaire d'un établissement riche et considéré. Je ne parle même pas de la possibilité de perpétuer dans la même famille la maison de commerce. Madame Dombey ne pouvait ignorer aucun de ses avantages. Depuis qu'elle a pu se rendre compte chaque jour de la position que j'occupe dans le monde. À ma table, Madame Dombey a toujours tenu le haut bout, et toujours elle a fait les honneurs de ma maison de la manière la plus convenable et la plus irréprochable. Madame Dombey doit avoir été heureuse, il n'en peut être autrement. Une seule chose, tout au plus, pouvait avoir manqué au bonheur de Madame Dombey. Oui, une seule. Monsieur Dombey en convenait. Mais cette chose, il est vrai, avait une grande importance. Depuis 10 ans qu'ils étaient mariés ensemble, et jusqu'à ce jour où M. Dombey était assis dans le grand fauteuil près du lit, secouant sa lourde chaîne d'or, leur union n'avait pas produit de résultat, ou du moins c'était tout comme. Ils avaient eu à la vérité une fille 6 ans auparavant, et l'enfant qui s'était furtivement glissé dans la chambre s'était blotti sans mot dire, dans un coin d'où elle pouvait voir la figure de sa mère. Mais qu'était-ce qu'une fille pour la maison Dombey fils? Au point de vue de l'importance du nom et de la dignité de la maison, une fille n'était qu'une fausse pièce sans cour légale, un enfant de rebut, rien de plus. Cependant, M. Dombey trouvait à ce moment la coupe de son bonheur assez pleine pour en laisser tomber une goutte ou deux et arroser l'aride existence de sa petite fille. Aussi, lui dit-il, « Florence, je vous permets d'aller regarder votre joli petit frère, si vous voulez, mais ne le touchez pas. » L'enfant jeta un coup d'œil pénétrant sur l'habit bleu et la cravate blanche et roide de M. Dombey. Car, pour la pauvre petite, un père, c'était un gilet bleu, une cravate blanche, des bottes neuves, une grosse montre, et voilà tout. Mais ses regards se reportèrent bien vite vers sa mère, et elle ne fit plus ni mouvement ni réponse. Un instant après, Madame Dombey ouvrit les yeux et aperçut l'enfant. La petite fille s'élança vers elle, et debout, sur la pointe des pieds, pour mieux couvrir sa mère de baisers, elle se serra contre elle avec un mouvement de tendresse désespérée, qui n'était pas de son âge. « Oh, mon Dieu, la petite maladroite, avec son exaltation fiévreuse !» dit M. Dombey de mauvaise humeur. Je ferais peut-être bien de prier le docteur Peps de remonter. Allons, je vais descendre. Je n'ai pas besoin de vous dire, ajouta-t-il, en s'arrêtant un moment au sofa, placé devant le feu, de prendre le plus grand soin de ce jeune gentleman, madame. Block it, monsieur, fit la garde. Sorte de créature souriante, aux agréments fanés, qui n'avait d'autre prétention, en déclinant son nom, que d'achever poliment la phrase de M. Dombey. « Je n'ai pas besoin de vous recommander ce jeune gentleman, Madame Blockitt. »« Non, certes, monsieur. Je me souviens encore quand Mademoiselle Florence vint au monde. »« Oui, oui, répondit M. Dombey, en se penchant sur le berceau avec un imperceptible froncement de sourcils. »« Mademoiselle Florence, c'était très bien, mais aujourd'hui c'est autre chose. »« Ce jeune gentleman a une destinée à accomplir. »« Oui, une destinée, mon petit ami. » Et, en s'adressant ainsi à l'enfant, il porta une de ses petites mains à ses lèvres et la baisa. Puis, comme s'il craignait que ce mouvement n'eût compromis sa dignité, il sortit aussitôt d'un air assez embarrassé. Le docteur Park Pepys, l'un des médecins de la cour, s'était acquis une immense réputation en facilitant, par le secours de son art, l'accroissement des premières familles. En ce moment, il se promenait de long en large dans le salon, les mains derrière le dos, à la grande admiration du médecin ordinaire des Dombey, qui, depuis 6 semaines, ne manquait pas de dire, en se rengorgeant, à tous ses malades, à tous ses amis, à toutes ses connaissances, que d'heure en heure, jour et nuit, il s'attendait à être appelé en consultation avec le célèbre docteur Park Pepys. « Eh bien, monsieur, dit le docteur Park Pepys d'une voix ronde, grave et sonore, un peu voilée pour la circonstance, comme le marteau de la porte qu'on avait emmitouflé pour le rendre moins éclatant. « Eh bien, monsieur, votre visite a-t-elle réveillé votre chère épouse ?»« Ou du moins ranimée ?» insinua doucement le médecin de la famille avec un salut à l'adresse du docteur Parker, salut qui voulait dire « Excusez-moi d'avoir placé mon petit mot, mais c'est un détail qui a sa valeur. » Monsieur Dombey fut très embarrassé à cette question. Il avait si peu songé à la malade qu'il n'était pas en état d'y répondre. Il s'en tira en priant le docteur de vouloir bien remonter. « Volontiers, fit M. Parker. « Nous ne devons pas vous cacher, monsieur, ajouta-t-il, qu'il y a chez madame la duchesse... Ah, pardon, c'est une confusion de nom. Je voulais dire qu'il y a chez votre aimable dame un manque de force, un certain degré de langueur, une absence générale d'élasticité que nous aimerions mieux ne pas voir, dit le médecin de famille, finissant la phrase du docteur Park Pepys en s'inclinant de nouveau. Précisément, que nous aimerions mieux ne pas voir, reprit le docteur Parker. Il semblerait que le système nerveux de Lady Kankerby, excusez-moi, je voulais dire de madame Dombey, je confonds les noms de mes clientes. Elles sont si nombreuses, dit tout bas le médecin de la famille. Oui, on peut se tromper. Ce n'est pas étonnant, quand on a une clientèle comme celle du savant docteur Parker Pepys, tout le beau quartier de West End. Précisément, je vous remercie, fit le docteur. Oui, comme je le faisais observer, il semblerait que le système de notre malade a été tellement ébranlé par quelques rudes coups qu'il faudrait un grand, un violent, un vigoureux effort, murmura le docteur de la famille. Précisément, dit le docteur, un vigoureux effort pour lui sauver la vie. Monsieur Pilkins, ici présent, qui par sa position de médecin de la famille, et personne, assurément, n'a plus de titre pour mériter cette confiance. Oh, fit M. Pilkins, éloge bien flatteur, venant d'une des célébrités de la science. Vous êtes trop bon, en vérité. M. Pilkins, donc, qui, en sa qualité de médecin de la famille, connaît mieux le tempérament de la malade à l'état normal, et c'est un point très important pour fixer notre opinion dans les circonstances présentes, pense avec moi qu'il faut rappeler la vie par un vigoureux effort, et que si notre intéressante amie, la comtesse de Dombey, madame Dombey, dis-je, ne pouvait... supporter, fit le docteur de la famille. Cette secousse, continua le docteur Park Pepys, il pourrait survenir une crise que M. Pilkins et moi, nous ne pourrions que déplorer de tout notre cœur. Cela dit, les deux médecins restèrent quelques secondes, les yeux fixés sur le plancher. Puis, sur un signe muet du docteur Park Pepys, on se dirigea vers l'étage supérieur. Le médecin de la famille ouvrit la porte pour laisser passer le praticien distingué et entra après lui, toujours en faisant force politesse. Dire que M. Dombey n'était pas affecté, à sa manière, de ce qu'il venait d'apprendre, ce serait être injuste à son égard. Sans doute, il n'était pas âme à se laisser ébranler ou abattre, mais bien certainement, il sentait intérieurement que, si sa femme venait à s'affaiblir et à mourir, il en serait vraiment très fâché. Il lui manquerait une pièce importante de son ménage, comme s'il venait à perdre de l'argenterie ou tout autre objet de quelque valeur qui lui coûterait un sincère regret. Il va sans dire pourtant que sa douleur était calme, commerciale, de bon ton et résignée. Ses méditations sur ce sujet furent bientôt interrompues par le frôlement d'une robe dans l'escalier, puis par la subite irruption dans la chambre d'une dame déjà sur le retour, mais dont la mise très jeune, et surtout la fine taille, pouvait, grâce au corset, dissimuler quelques années. Elle courut à lui en se tortillant et en minaudant, encore tout agitée d'une émotion contenue, et jetant ses bras autour de son cou, elle dit d'une voix entrecoupée « Mon cher Paul, c'est un vrai Dombé !»« c'est bon, » reprit son frère, car M. Dombé était son frère. « Je vois qu'il a un air de famille. Mais ne vous mettez pas dans cet état, Louisa. » « C'est ridicule, je le sais bien, » dit Louisa en s'asseyant et en tirant son mouchoir. « Mais c'est plus fort que moi. »« Oh, voyez-vous, c'est un Dombé, un vrai Dombé. De ma vie, je n'ai vu chose pareille. »« Mais Fanny, » dit M. Dombé, « Fanny, comment va-t-elle ?»« Mon cher Paul, ne vous tourmentez pas, » reprit Louisa. « Croyez-moi, ce n'est rien. Il y a épuisement, sans doute. Mais quelle différence entre son état et le mien ?» quand j'ai mis au monde Georges ou Frédéric. Il faut un effort, voilà tout. Ah, si notre chère Fanny était du sang des Dombé. Mais c'est égal, elle prendra le dessus, j'en suis sûr. Sachant qu'on lui demande comme un devoir de faire un effort, elle le fera. Oui, certes, elle le fera. Mon cher Paul, c'est faiblesse, sottise même, si vous voulez, d'être si ému, de trembler ainsi des pieds à la tête, mais je me sens dans un si drôle d'état que je vous demanderai, s'il vous plaît, un doigt de vin et un morceau de ce gâteau. J'ai pensé tomber par la fenêtre de l'escalier en quittant Fanny et le cher petit piauleur. Ces derniers mots étaient inspirés par un retour vif et subit de sa pensée vers le petit enfant. Ils furent suivis d'un léger coup frappé à la porte. « Madame Chick, » dit d'un ton caressant une voix de femme en dehors, « comment vous trouvez-vous, ma chère amie ?» « Mon cher Paul, » dit Louisa à voix basse en se levant, « c'est Miss Tox, la meilleure personne du monde. Je n'aurais jamais eu le courage de venir ici sans elle. Miss Tox, je vous présente mon frère, M. Dombé. Paul, je vous présente Miss Tox, ma bonne, ma meilleure amie. » La personne que Madame Chick venait de présenter ainsi à son frère avait une figure longue, maigre et si fanée qu'elle n'avait pas dû être dans le principe « bon teint » comme disent les marchands d'étoffes, et que peu à peu elle avait fini par passer. Or cela, on pouvait la donner comme la fleur du bon ton et de la plus exquise politesse. Par suite d'une habitude qu'elle avait contractée depuis longtemps, d'écouter avec admiration tout ce qui se disait en sa présence, et de considérer attentivement les personnes qui parlaient, comme pour graver à tout jamais leur image dans son âme, sa tête était toujours penchée du même côté. Ses mains, par habitude, se levait convulsivement par un mouvement involontaire d'admiration. Ses yeux exprimaient la même inspiration. Elle avait la voix la plus douce qu'on eût jamais entendue, et son nez, étonnamment aquilin, avait juste au milieu une légère protubérance assez semblable à la clé de voûte d'un pont en dos d'âne. À partir de ce point, il descendait par une pente rapide tout le long de son visage, avec le ferme propos de ne plus remonter à aucun prix. Tout ce que portait Miss Tox, quoique jolie et de bonne qualité, avait quelque chose de roide et d'étriqué. Sur ses bonnets et sur ses chapeaux, on voyait de singulières petites fleurs de plantes communes. À ses cheveux se mêlaient parfois des herbes étranges, et plus d'un œil malin avait souvent remarqué que ses cols, ses manchettes, ses jabots, ses poignets, tous les colifichets de toilette, enfin, dont les deux bouts doivent se rejoindre, n'étaient jamais d'accord, et ne pouvait se rapprocher sans une lutte violente. Elle avait toute une garde-robe de fourrure pour l'hiver. Palatine, boa, manchon, rien n'y manquait, mais le poil en était toujours hérissé. Miss Tox ne savait rien ajuster. Elle avait la manie de ces petits sacs à fermoir qui partent comme des pistolets quand on les ferme. Et lorsqu'elle était en grande toilette, elle mettait à son cou le plus insignifiant des bijoux, quelques médaillons ternes et opaques comme un vieil œil de poisson. Toutes ces singularités, et bien d'autres encore, faisaient croire que Miss Tox était loin d'être riche et qu'elle avait seulement, comme on dit, quelques petites choses dont elle tirait le meilleur parti possible. À voir sa démarche sautillante, on était porté à croire que, fidèle à son système, sa façon de diviser un pas ordinaire en deux ou trois était en harmonie avec son habitude de ne rien laisser perdre, et de fendre un cheveu en quatre. Vraiment, dit Miss Tox, en faisant une profonde révérence, l'honneur d'être présenté à M. Dombé est une faveur que j'ai depuis longtemps désirée, mais à laquelle j'étais loin de m'attendre en ce moment. Ma chère Madame Chick, puis-je dire ma chère Louisa ? Madame Chick prit dans la sienne la main de Miss Stocks, sans déposer son verre, et dit d'une voix émue, en renfonçant une larme, « Pouvez-vous me le demander ?»« Mieux, reprit Madame Chick, prenez donc un peu de vin. » « Eh bien donc, ma chère Louisa, ma tendre amie, comment vous trouvez-vous maintenant ?»« Mieux, reprit Madame Chick. Prenez donc un peu de vin, je vous prie. Vous avez partagé mon inquiétude, et vous devez avoir, autant que moi, besoin de prendre quelque chose. » Monsieur Dombey, naturellement, fit les honneurs de sa collation improvisée. « Miss Stocks, poursuivit Madame Chick, qui tenait toujours la main de son amie, sachant combien j'étais préoccupé de l'événement d'aujourd'hui, a fait elle-même pour Fanny un petit ouvrage que j'ai promis de lui offrir. C'est tout simplement une pelote destinée à sa toilette. Mais je prétends, je maintiens, j'affirme que Miss Stocks en a fait un petit chef-d'œuvre de sentiment. Pour moi, à la bienvenue de l'enfant Dombey, c'est de la vraie poésie. « Est-ce là la devise ?» dit M. Dombey. « Oui, reprit Louisa. « Mais rappelez-vous, je vous prie, ma chère Louisa, dit Miss Stocks d'un ton suppliant, que sans le... comment dirais-je ? Sans le doute où j'étais de ce qui devait arriver, je n'aurais pas profité de l'équivoque. Ma devise eût été « à la bienvenue de Maître Dombey ». Et ce langage, vous n'en doutez pas, eût été plus conforme à mes sentiments. Mais l'incertitude où l'on est jusqu'au dernier moment sur le titre de ces petits hôtes que le ciel nous envoie excusera, je l'espère, une devise qui autrement serait d'une familiarité impardonnable. Miss Stocks fit, à ces mots, une gracieuse révérence à l'adresse de M. Dombey, qui s'inclina non moins gracieusement. La conversation qui venait de rendre, en quelque sorte, un nouvel hommage à la maison Dombey et fils, avait causé à M. Dombey un si vif plaisir que Madame Chick, qui jusqu'alors n'avait été pour lui qu'une bonne personne et rien de plus, acquit sur lui, en un instant, plus d'influence que qui que ce fût. « Eh bien, dit Madame Chick avec un doux sourire, puisque Fanny nous a donné un Dombey, je lui pardonne tout. » Ce pardon était charitable, et Madame Chick se sentit soulagée, sans cependant qu'elle eût rien à pardonner à sa belle-sœur, si ce n'est peut-être d'avoir épousé son frère, entreprise assez téméraire, et d'avoir, dans la suite, mis au monde une fille au lieu d'un garçon, chose à laquelle on était loin de s'attendre de sa part, comme le faisait souvent observer Madame Chick. C'était en effet bien mal récompenser les attentions et les égards qu'on avait toujours eus pour elle. M. Dombey, qu'on venait d'avertir de monter promptement, laissa les deux dames ensemble, et Miss Stocks aussitôt s'abandonna sans réserve à son exaltation. « Vous ne pouviez manquer d'admirer mon frère, je le savais bien, dit Louisa. Je vous avais prévenu, ma chère. » Les mains et les yeux de Miss Stocks exprimèrent toute la vivacité de son sentiment. « Et sa fortune, ma chère ?»« Ah !» dit Miss Stocks, profondément émue. « Immense !»« Mais son maintien, ma bonne Louisa, son air noble et digne. Non, jamais je n'ai vu ensemble aussi parfait. Il y a en lui quelque chose de si majestueux, de si imposant, tant d'ampleur, tant d'aplomb, un duc d'York de la finance, ma chère. Non, je n'exagère pas. C'est ainsi que je le définis. « Et quoi, mon cher Paul ? » s'écria Louisa, en voyant rentrer son frère, « comme vous êtes pâle. Qu'y a-t-il donc ? » ?»« Je suis bien peiné, Louisa. On vient de m'apprendre que Fanny... »« Mon cher Paul, n'en croyez rien, » répliqua sa sœur en se levant. « Si vous avez foi en mon expérience, soyez sûr qu'il s'agit seulement d'amener Fanny à faire un effort sur elle-même. » Là-dessus, elle ôta son chapeau, ajusta son bonnet, remit ses gants d'un air affairé et ajouta « Mais il faut l'encourager, la violenter même s'il est nécessaire. Allons, Paul, montez avec moi. » M. Dombey, qui subissait l'influence de sa sœur, pour la raison que nous avons indiquée, et qui d'ailleurs la croyait femme d'expérience et d'action, la suivit sans hésiter près de la malade. Madame Dombey était sur son lit, comme il l'avait laissé, pressant sa petite fille sur son cœur. L'enfant la serrait dans ses bras avec la même force, sans lever la tête, sans écarter sa joue caressante de la figure de sa mère, sans rien voir autour d'elle, muette, immobile, d'œil sec. « Elle ne goûte de repos qu'avec sa fille, dit tout bas le docteur à M. Dombey. Nous avons pensé qu'il valait mieux faire rentrer la petite. Un silence solennel régnait autour du lit. Les deux docteurs, le regard tristement fixé sur ce corps sans mouvement, semblaient donner si peu d'espérance que Mme Chick eut un moment d'hésitation. Mais bientôt, prenant courage et rappelant ce qu'elle nommait sa présence d'esprit, elle s'assit près du lit et dit d'une voix basse, mais accentuée comme pour réveiller une personne endormie, « Fanny, Fanny !» Pour toute réponse, on n'entendit que le tic-tac des montres de M. Dombey et du docteur Parker, qui semblaient dans le silence lutter de vitesse. « Fanny, mon amie !» dit Mme Chick en se donnant un air gai. « Voici M. Dombey qui vient vous voir. Ne voulez-vous pas lui parler ? On voudrait coucher le petit, le cher petit. Fanny, l'avez-vous vu seulement ? On ne peut le coucher si vous ne vous réveillez pas. Allons, il est bientôt temps de vous réveiller, n'est-ce pas ?» Elle se pencha sur le lit comme pour écouter, regardant en même temps les témoins de cette scène, un doigt posé sur sa bouche. « Vous dites ? » fit-elle encore. « Je ne vous ai pas bien entendu, Fanny. » Mais rien, pas de réponse. Le tic-tac des deux montres allait toujours plus vite. « Voyons, Fanny, » dit Mme Chick en changeant de ton, car la situation devenait sérieuse, et son assurance l'abandonnait malgré elle. « Fanny, je me fâcherai avec vous pour tout de bon si vous ne vous réveillez pas. Il faut faire un effort. Peut-être le trouvez-vous au-dessus de vos forces. » « Mais vous le savez, Fanny, en ce monde, il faut de l'énergie, et l'on ne doit pas se laisser abattre, quand d'aussi graves intérêts reposent sur vous. Allons, essayez. Je vous gronderai si vous ne le faites pas. » Toujours même silence. La lutte des deux montres devenait terrible, furieuse. Elles semblaient se heurter, se renverser dans leur course désordonnée. « Fanny, » dit Louisa alarmée, et jetant autour d'elle un regard d'effroi, « ouvrez seulement les yeux. « Tournez-les vers moi, pour me prouver que vous m'entendez et que vous me comprenez. Oh, mon Dieu, messieurs, que faire ?» Les deux médecins échangèrent un regard, et le docteur Parker, se baissant, parla à l'oreille de la petite fille. Celle-ci, n'ayant pas compris, tourna vers lui sa pâle figure et ses grands yeux noirs, mais sans se détacher de sa mère. Le docteur répéta. L'enfant redit après lui, « Maman !» Cette petite voix, si connue et si chère, ramena un semblant de sensibilité dans ce corps déjà inanimé. Les cils tremblèrent, les narines tressaillirent, une ombre de sourire effleura les lèvres. « Maman !» cria l'enfant en poussant des sanglots. « Oh, maman, ma chère maman !» Le visage de la mère était tout entier caché par la chevelure de l'enfant. Le docteur écarta doucement quelques boucles de cheveux. Hélas, comme ces boucles étaient immobiles, il restait si peu de souffle pour les agiter. Ainsi, la mère, étreignant cette frêle épave dans le dernier naufrage, se laissa aller à la dérive sur le sombre et mystérieux océan qui emporte tout dans ses abîmes. Chapitre 2. Précaution prise à temps contre un accident qui jette parfois le trouble dans les maisons les mieux ordonnées. C'est égal. Je me féliciterai toujours d'avoir tout pardonné à notre pauvre Fanny, quand cependant je songeais si peu au malheur qui nous attendait. En vérité, c'était comme une inspiration. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours une consolation pour moi. Madame Chick fit cette touchante réflexion en entrant dans le salon. Elle venait de faire sa revue à l'étage supérieur, où les couturières travaillaient au deuil de la famille. Son observation s'adressait à M. Chick, gros homme chauve, à la figure large, les mains continuellement dans les poches, toujours sifflant, toujours fredonnant. Siffler et fredonner, c'était sa vie. Aussi avait-il grand-peine à se contenir en ce moment, quoiqu'il comprît toute l'inconvenance d'une telle conduite au milieu d'une famille en deuil. « Ne vous fatiguez pas trop, Louisa, » dit M. Chick, « ou vous tomberez malade, certainement. » « Tradéridera, tradère. Ah, mon Dieu, je m'oublie. Aujourd'hui on est là, demain on n'y est plus. » Madame Chick se contenta de lancer à son mari un regard plein de reproches et reprit le fil de son discours. « J'espère, dit-elle, que cette douloureuse circonstance nous apprendra à ne pas nous laisser abattre, mais à faire, à propos, tous les efforts qu'on exige de nous. Il y a une morale dans toute chose. Il faut savoir en profiter. Profitons de celle-là où nous serions bien coupables. » Un moment de profond silence suivit cette remarque, et M. Tchik entonna aussitôt l'air, très peu de circonstances, il était un vieux savetier. Puis, s'arrêtant court, tout confus, « Certainement, dit-il, nous serions bien coupables de ne pas profiter d'une aussi triste leçon. » « La belle manière d'en profiter, dit Madame Tchik, de venir nous chanter ici des airs de guinguette et de nous étourdir de refrains insignifiants qui ne font guère honneur à vos sentiments. Vous y voilà encore, pourtant, tra deridera. » Et Madame Tchik de répéter d'un ton d'écrasant mépris le refrain que son mari fredonnait encore. « Pure habitude, ma chère, dit Monsieur Tchik pour sa défense. Ça n'a pas de bon sens. Une habitude, répliqua sa femme. Un homme raisonnable peut-il donner de pareilles excuses? Une habitude. Et si je prenais l'habitude, moi, d'aller me promener au plafond comme les mouches, on m'en dirait de belle. » Il paraissait si probable qu'une telle habitude aurait fait parler d'elle que Monsieur Tchik ne se hasarda pas à lui disputer le terrain. « Comment va l'enfant, Louison ? » demanda-t-il pour changer la conversation. « De quel enfant parlez-vous ? » répondit Madame Tchik. « Car, en vérité, j'en ai tant vu ce matin dans cette salle à manger que c'est à n'y pas croire. »« Tant vu ? » répéta Monsieur Tchik, ouvrant de grands yeux d'un air tout effaré. « Ne tombe-t-il pas sous le sens, dit Madame Tchik, que notre pauvre Fanny n'étant plus, il faut s'inquiéter d'une nourrice ?»« Ah, je comprends, dit Monsieur Tchik. « Tra-déridera, ainsi va la vie, voulais-je dire. Sans doute, ma chère, vous en avez arrêté une. »« Non, vraiment, dit Madame Tchik, et j'ai beau chercher, je ne vois pas où j'en puis trouver. » Et pendant ce temps-là, le petit, comme vous pensez bien, s'en va au diable, dit Monsieur Tchik tout pensif. « Pauvre petit. » Averti cependant par un geste d'indignation de Madame Tchik qu'il s'était laissé aller trop loin en envoyant au diable un dombey, Monsieur Tchik voulut expier sa faute par une heureuse idée. « Mais en attendant, ne pourrait-on pas, ma chère, le faire boire à la théière ?» S'il eût souhaité couper court à la conversation, il n'aurait pas mieux réussi. Après l'avoir regardé quelque temps d'un air de pitié, Madame Tchik, attirée par le roulement d'une voiture, se dirigea majestueusement vers la croisée et regarda à travers la jalousie. Monsieur Tchik, voyant qu'il n'avait pas de chance en ce moment, s'éloigna sans rien ajouter. Mais il n'en était pas toujours ainsi. M. Tchik, dans les discussions, avait souvent le dessus, et Louisa recevait alors une rude leçon. Dans leur querelle matrimoniale, ils formaient après tout un couple bien assorti. Monsieur valait madame, et l'un n'était jamais en reste avec l'autre. En général, il eût été bien difficile de parier d'avance pour le gagnant. Souvent, quand M. Tchik semblait battu, il se jetait de côté, changeait ses batteries, étourdissait Madame Tchik et se rendait maître de la position. Mais, comme il était exposé lui-même de la part de Madame Tchik à de semblables échecs également imprévus, leur petit débat avait toujours un caractère d'incertitude qui les rendait très animés. Miss Tox descendit de la voiture dont nous avons parlé et se précipita tout essoufflée dans la chambre. « Ma chère, dit-elle, la place est-elle encore vacante ?»« Oui, bon ami. » »« Ma chère Louisa, reprit-elle, j'espère, je crois même, mais dans un moment, j'amène ici mon monde. » Miss Tox descendit l'escalier aussi vite qu'elle l'avait monté, fit sortir son monde du fiacre et l'introduisit bientôt sous son escorte. On s'aperçut alors que son monde ne se composait pas d'une simple nourrice, comme on aurait pu croire, mais qu'il était plus compliqué. Car on vit entrer d'abord une jeune femme dodue et fraîche, à la figure vermeille et joufflue, avec un enfant dans ses bras, puis une femme plus jeune, un peu moins dodue, mais joufflue aussi, et tenant à chaque main un enfant dodu et joufflu. Un autre gros garçon, tout aussi joufflu et non moins dodu, la suivait. Et la marche était fermée par un gros homme dodu et joufflu, qui portait sur son bras un autre enfant dodu et joufflu. Cet enfant, il le posa par terre, lui disant à l'oreille d'une voix enrouée, « Ne lâche pas ton frère Jean. » « Ma chère Louisa, dit Miss Tox, sachant votre inquiétude et désirant l'adoucir, j'ai couru au bureau royal des nourrices mariées auxquelles vous n'aviez pas songé. Là, je m'adresse à la sage-femme et lui demande si elle peut me procurer une nourrice. Non, me répond-elle, j'étais désespéré pour vous. Mais une des femmes mariées de l'institution royale, qui avait entendu ma question, rappelle à la sage-femme qu'une autre venait de quitter le bureau pour retourner chez elle. Selon toute apparence, disait-elle, cette femme devait me convenir. À peine avais-je entendu ces mots de la bouche même de la sage-femme, excellent renseignement, caractère irréprochable, que je prends l'adresse et me voilà courant de nouveau. « Comme une chère et excellente Tox que vous êtes, » dit Louisa. « Oh, non pas, » reprit Miss Tox, « ne dites pas cela. J'arrive à la maison, l'habitation la plus propre que vous puissiez imaginer, ma chère. On y mangerait par terre. Je trouve toute la famille à table, et comprenant bien que rien de ce que je pourrais dire ne vaudrait pour vous et pour M. Dombey la vue de ces braves gens, je les ai tous amenés. « Monsieur est le père, » dit Miss Tox en montrant l'homme joufflu. « Auriez-vous la bonté de vous avancer un peu, monsieur ?» L'homme joufflu se passa tout penaud devant la famille, la figure contractée par un rire niais et stupide. « Voici sa femme, » dit Miss Tox, et elle montrait la jeune femme avec l'enfant. « Comment allez-vous, Polly ?»« Pas mal, madame, je vous remercie, » dit Polly. Pour la mettre adroitement en évidence, Miss Tox lui avait adressé cette question comme à une vieille connaissance qu'elle n'aurait pas vue depuis une quinzaine. « J'en suis bien aise, » continua Miss Tox. « L'autre jeune femme est sa sœur. Elle n'est point mariée. Elle vit avec eux et prendra soin des enfants. Elle se nomme Jemima. Comment vous portez-vous, Jemima ?»«
Pas mal, madame. Je vous remercie, » dit Jemima.
« J'en suis bien aise, » dit Miss Tox, « et je souhaite qu'il en soit toujours de même. Vous le voyez, Louisa, 5 enfants. Le plus jeune a 6 semaines. » Ce beau petit garçon qui a sur le nez une cloche est l'aîné. Cette cloche ne tient pas à sa constitution. C'est purement un accident, n'est-ce pas ?
C'est un fer à repasser, grommela l'homme joufflu d'une voix rauque.
Pardon, monsieur, je n'ai pas bien entendu, dit Miss Tox. C'est un fer à repasser, répéta-t-il.
Ah oui, dit Miss Tox, je l'avais oublié. Le pauvre petit, en l'absence de sa mère, est allé mettre le nez sur un fer à repasser tout brûlant.
« Vous avez raison, monsieur. Quand nous sommes arrivés ici, vous aviez la bonté de me dire, monsieur, que vous étiez de votre état chauffeur, madame. »«
Ah, grand Dieu ! De la bande des chauffeurs ! » dit Miss Tox, épouvantée.
« Non, chauffeur, machine à vapeur, » dit l'homme.
« Ah oui, » répondit Miss Tox, cherchant le sens des paroles qu'elle n'avait pas bien comprises.
« Et comment vous en trouvez-vous, monsieur ?»«
De quoi, madame ? » ?»« De votre état. »
« Oh, pas mal, madame. La cendre entre quelquefois là. » Et il montra sa poitrine. « Cela vous grossit la voix, comme vous voyez. »«
Mais c'est les cendres, madame. C'est pas la méchanceté. »
Miss Tox, après cette réponse, ne s'en trouva pas plus avancée et n'osa poursuivre la conversation. Mais madame Chick la tira d'embarras en examinant avec soin Polly, ses enfants, son acte de mariage, ses certificats et tout le reste. Polly sortit de cette épreuve à son honneur, et Madame Chick, munie de tous ces détails, alla trouver son frère. Comme témoignage irrécusable à l'appui, et pour donner plus d'autorité à son récit, elle avait pris avec elle les 2 Toodles les plus vermeils. Toodle était le nom que portait la famille Joufflu. Monsieur Dombey, depuis la mort de sa femme, était resté dans son appartement, plongé dans ses plans d'avenir. Il songeait à la jeunesse de son enfant, à son éducation, à son sort futur. Au fond de ce cœur froid de nature, était descendu comme un poids plus froid et plus lourd encore que d'habitude. Mais c'était moins le sentiment de la perte qu'il avait faite lui-même que de celle qui pesait sur son enfant, qui éveillait en lui une espèce de chagrin mêlé de dépit. Quelle cruelle humiliation de penser qu'une existence sur laquelle il avait fondé tout son espoir fut compromise dès le premier jour. Et pourquoi ? La maison Dombey et fils périrait-elle faute d'une nourrice ? M. Dombey était blessé dans son orgueil et dans son affection jalouse pour son enfant. Au moment même où se réalisait le plus cher de ses vœux, il se voyait à la merci d'une femme à gage, qui allait être pour son enfant tout ce que son alliance aurait fait de sa propre femme. Amère pensée qui lui faisait trouver une sorte de plaisir à écarter les sujets qui se présentaient. Cependant, le moment était venu où il ne pouvait plus hésiter. D'ailleurs, il n'y avait rien à reprocher à Polly Toodle. Au dire de sa sœur,
qui ne tarissait pas en éloge sur l'infatigable amitié de Miss Tox. « Ces enfants paraissent bien portants, » dit M. Dombey. « Mais quand je songe qu'un jour, ils pourront se targuer d'une sorte de parenté avec Paul. Oh, tenez, Louisa, emmenez-les. Faites venir cette femme et son mari. » Madame Chick emporta les deux petits Toodle et revint bientôt suivi du père et de la mère que M. Dombey avait demandé. « Ma brave femme, » dit-il en se retournant tout d'une pièce dans son fauteuil, « on me dit que vous êtes pauvre et que vous voulez gagner de l'argent en nourrissant ce petit garçon, mon fils, pauvre enfant, privé si prématurément de ce qu'on ne peut remplacer. Je n'ai aucune objection à faire aux moyens que vous employez pour venir en aide à votre famille. D'après ce que je vois, vous êtes une personne méritante. Mais je vous imposerai une ou deux conditions avant de vous recevoir chez moi en cette qualité. » « Tant que vous resterez ici, j'exige que vous portiez toujours le nom de Richard, nom simple et convenable. Consentiez-vous à vous appeler Richard ? Du reste, vous pouvez consulter votre mari. » Comme le mari continuait à rire de sa façon niaise et stupide, s'essuyant continuellement la bouche du revers de la main, Madame Toodle le poussa deux ou trois fois du coude pour le faire parler, mais sans succès. Elle fit alors une révérence et répondit que, si elle devait sacrifier son nom, elle espérait qu'on en tiendrait compte dans les gages. « Oh, sans difficulté, je ne demande pas mieux que d'en faire une question d'argent. Maintenant, Richard, si vous nourrissez mon pauvre enfant, rappelez-vous ce que je vais vous dire. Vous serez payé généreusement pour la peine que vous donneront certains devoirs. Mais tant que vous serez à mon service, je désire que vous voyiez votre famille le moins possible. » Quand votre tâche sera accomplie et vos gages payés, tout rapport entre nous cessera. Me comprenez-vous bien ? » Madame Toodle parut réfléchir. Quant à Toodle, il n'avait pas à réfléchir, il était clair qu'on l'avait mis de côté. « Vous avez des enfants à vous, » dit M. Dombey. « Je ne demande pas, dans notre marché, que vous vous attachiez à mon fils, pas plus que mon fils ne doit s'attacher à vous. Je n'espère ni ne désire rien de semblable. C'est tout l'opposé. Quand vous quitterez cette maison, toute affaire sera terminée entre nous. Vous aurez été à mon service, moi je vous aurai payé, nous serons quittes. Vous n'aurez plus qu'à vous retirer. L'enfant vous oubliera et vous l'oublierez, s'il vous plaît. » Madame Toodle, un peu plus rouge qu'auparavant, répondit qu'elle saurait se tenir à sa place. « Je l'espère, » reprit M. Dombey. « Je n'ai aucun doute à ce sujet. C'est du reste si simple et si facile qu'il n'en peut être autrement. Louisa, ma chère, arrangez-vous avec elle pour l'argent et payez-la comme et quand elle le voudra. Monsieur Chose, j'ai un mot à vous dire, s'il vous plaît. » Arrêté ainsi sur le seuil de la porte, au moment où il se disposait à sortir de la chambre avec sa femme, Toodle revint sur ses pas et resta seul avec Monsieur Dombey. Toodle était robuste, bien bâti, large des épaules, gauche dans son maintien, négligé dans sa mise. Ses favoris et ses cheveux mal peignés avaient pris une teinte plus foncée sous la fumée et la cendre de charbon. Ses mains étaient dures et calleuses, et son front carré était aussi rugueux que l'écorce d'un chêne. Il formait avec M. Dombey un contraste frappant. Ce M. Dombey était un de ces financiers toujours frais rasés et tirés à quatre épingles, qui reluisent des pieds à la tête et qui, au moindre mouvement, craquent dans toute leur personne, comme un billet de banque tout neuf sous la main qui le froisse. Il semble que leurs fibres aient été tendues et leurs pores resserrés par l'action stimulante d'une douche retombante en pluie d'or. « Vous avez un fils, je crois, » dit M. Dombey. « Quatre, monsieur, quatre garçons et une fille, tous grouillants et bien vivants. « Mais vous devez avoir bien de la peine à les nourrir, » dit M. Dombey. « Il y a une chose au monde qui me donnerait plus de peine encore. »« Laquelle ? De les perdre. »« Savez-vous lire ? » dit M. Dombey. « Mais pas dans la perfection. »« Écrire ? Avec de la craie, monsieur. »« Avec n'importe quoi ? » ?»« Je pourrais, je crois, tracer quelques mots avec de la craie s'il le fallait, » répondit Toodle après avoir un peu réfléchi. « Et pourtant, » dit M. Dombey, « vous devez avoir 32 ou 33 ans, il me semble. »« « Oui, environ, il me semble, » dit Tootle après mûre réflexion.
« Eh bien, pourquoi n'apprenez-vous pas ?» demanda M. Dombey.
« Oh, je vais apprendre, monsieur. Un de mes petits me montrera quand il sera plus grand et qu'il aura été à l'école. »
« Cela suffit, » dit M. Dombey, peu satisfait, après l'avoir regardé attentivement, pendant qu'il promenait ses yeux tout autour de la chambre, principalement autour du plafond, sans se lasser de passer et de repasser sa main sur sa bouche.
« Vous avez entendu ce que je viens de dire à votre femme ?»«
Polly l'a entendu, » répondit Tootle, en passant son chapeau par-dessus son épaule du côté de la porte, avec un air de parfaite confiance dans sa chère moitié. « Il n'en faut pas davantage. »
M. Dombey avait espéré faire comprendre plus clairement encore ses intentions au mari, le supposant la forte tête de la famille.
Il s'était évidemment trompé. « Puisque vous vous reposez entièrement sur votre femme, dit-il, je crois inutile de rien ajouter. »«
C'est inutile, dit Tootle. Polly a compris, c'est une bonne tête, elle. »«
Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, alors, » reprit M. Dombey, désappointé.
« Où avez-vous travaillé jusqu'à présent ?»«
Le plus souvent sous terre, jusqu'à mon mariage, » répondit Tootle. « Pour le quart d'heure, je travaille dessus. » « Je vais être occupé bientôt sur les chemins de fer ici près, quand ils seront en activité. »
C'était pour M. Dombey la goutte d'eau qui fait déborder le verre. Il n'en put entendre davantage et montra la porte au père nourricier de Dombey fils, qui n'était pas non plus fâché de sortir. Puis, s'enfermant à la clé, M. Dombey se promena de long en large dans la chambre, s'abandonnant à son désespoir. Malgré la roideur empesée de son maintien, et l'impassible dignité de sa personne, il n'en essuya pas moins deux larmes qui roulaient dans ses yeux et répéta plusieurs fois, avec une émotion que, pour rien au monde, il ne voulut laisser voir à d'autres, « Ce pauvre petit, pauvre petit !» M. Dombey, dans son orgueil, ne souffrait que du malheur de son fils. Il ne disait pas « Malheureux que je suis, pauvre veuf, forcé de donner ma confiance à la femme d'un rustre, qui a travaillé presque toute sa vie sous terre, et à la porte duquel, pourtant, la mort n'a jamais frappé, et qui voit chaque jour quatre fils assis à sa table. Mais il disait « Pauvre petit !» Tout à coup, il lui vint à l'esprit, et c'est une preuve de la forte attraction qui faisait tendre toutes ses espérances, toutes ses craintes, toutes ses pensées vers un même centre, il lui vint à l'esprit qu'une violente tentation pouvait s'emparer de la nourrice. Son enfant était un garçon aussi. N'était-il pas possible qu'elle l'échangeât pour son fils ? M. Dombey écarta bientôt cette idée comme romanesque et invraisemblable, quoique possible pourtant à la rigueur, et, sans vouloir s'y arrêter, il ne put s'empêcher de se demander ce qu'il ferait s'il venait à découvrir une telle imposture dans sa vieillesse. Un homme à qui cela arriverait, pourrait-il bien, dans ce cas, enlever à l'enfant supposé le fruit de tant d'années d'habitude, de confiance et de foi, pour en combler un autre qui lui serait devenu étranger ? À mesure que se calmait cette émotion inaccoutumée, les soupçons qui avaient traversé son esprit s'effaçaient, laissant cependant derrière eux une impression assez réelle pour lui faire prendre la résolution de surveiller lui-même Richard et de près, sans qu'elle s'en doutât. Après avoir pris cette résolution, il se trouva plus à son aise et pensa que la condition malheureuse de cette femme était une circonstance plutôt favorable, puisqu'elle mettait une plus grande distance entre elle et son enfant et rendait leur séparation facile et naturelle. Cependant, tout s'était arrangé et conclu entre Madame Chick et Richard avec l'aide de Miss Stocks. On apporta à Richard le petit Dombey avec le même cérémonial qu'on eût mis à lui conférer l'ordre de la jarretière. Et la pauvre mère remit à Jemima son propre enfant, le couvrant de larmes et de baisers. Puis, pour soutenir les cœurs affligés de la famille, on fit servir des verres de vin. « Vous prendrez bien un verre de vin, monsieur, » dit Miss Stocks à Tootle qui venait d'entrer. « Merci, madame, je le veux bien, puisque vous insistez. » « Vous êtes bien aise de laisser votre chère femme dans une maison aussi agréable, n'est-ce pas, monsieur ?» reprit Miss Stocks, en faisant de l'œil et de la tête un signe d'intelligence à Tootle. « Non, madame, » répondit-il, « et je bois à son retour. »
Les larmes de Polly redoublèrent, et Madame Chick,
femme d'expérience, qui savait que ses émotions pouvaient être dangereuses pour la santé du petit Dombey, car cela lui ferait tourner son lait, dit-elle tout bas à Miss Tox, se hâta de le consoler. « Votre petit enfant viendra à ravir, Richard, grâce aux bons soins de Jemima, dit-elle. Pour être heureuse, il vous suffit de faire un effort sur vous-même, et vous le savez, il en faut beaucoup dans ce monde. Vous a-t-on pris mesure pour vos vêtements de deuil, Richard ?»«
Oui, madame, » fit Polly en sanglotant.
« Vous serez bien habillée, j'en suis sûr, » dit madame Chick, « car la même couturière m'a fait à moi-même plusieurs robes. Et les robes, comme elles sont belles, n'est-ce pas ?»« Et vous serez si belle, » dit Miss Tox, « que votre mari ne vous reconnaîtra pas. »«
Oh, que si, je la reconnaîtrai, » dit brusquement Toodle, « n'importe comment et n'importe où. »
Évidemment, il n'y avait pas moyen de gagner cet homme-là. « Quant à votre façon de vivre, Richard, les meilleures choses seront à votre disposition. Vous ordonnerez votre petit dîner chaque jour, et si vous avez une envie, vous pouvez être sûr qu'on la satisfera aussi promptement qu'à la plus grande dame. »
« Oui, vraiment, » continua Miss Tox. « Et quant au porteur, à discrétion, n'est-ce pas, Louisa ?»«
Oh, certainement, » répondit madame Chick du même ton. « Seulement, vous le savez, ma chère, il faudra vous observer sur les légumes. »«
Et aussi sur les cornichons, » insinua Miss Tox.
« À ces exceptions près, » reprit Louisa, « elle pourra consulter entièrement son choix. Rien ne lui sera refusé. » »«
Et puis enfin, » dit Miss Tox, « quoi qu'elle soit folle de son cher petit enfant, et j'en suis sûr, Louisa, ce n'est pas vous qui lui ferez un reproche de sa tendresse. »«
Oh non, » dit madame Chick avec une douce sympathie. « Malgré sa tendresse pour son enfant, » continua Miss Tox, « elle ne pourra s'empêcher de s'attacher à son nourrisson, et considérera comme un honneur de voir un petit ange qui touche de si près aux classes élevées de la société puiser sa force et ses progrès de chaque jour à une source aussi vulgaire, n'est-ce pas, Louisa ?»«
Sans aucun doute, ma chère, » répondit madame Chick.
« Mais la voilà déjà toute heureuse et toute consolée. Et j'en suis sûr, elle va dire adieu à sa sœur Jemima, à ses petits chéris et à son brave homme de mari, le cœur léger et le sourire sur les lèvres. N'est-ce pas, ma chère ?»«
Oui, oui, » dit Miss Tox, « bien sûr, elle va le faire. »
La pauvre Polly, pourtant, avait le cœur bien gros en les embrassant tous à la ronde. Et elle s'enfuit pour éviter de plus tendres adieux entre elle et les enfants. Mais le stratagème n'eut pas tout le succès désiré, car l'avant-dernier des petits garçons, ayant deviné son intention, se mit à grimper l'escalier à quatre pattes pour la suivre, pendant que l'aîné, connu dans la famille sous le nom de Baila, en souvenir de la machine à vapeur du même nom, trépignait des pieds pour exprimer son chagrin avec ses talons de bottes, trépignement imité bientôt par tout le reste de la famille. Des oranges et des sous en quantité furent distribués avec profusion aux jeunes Toodle pour adoucir l'amertume de leurs premiers regrets. Puis la famille fut reconduite sans plus tarder à sa demeure, grâce au fiacre qu'on avait fait attendre dans ce dessein. Les enfants, sous la garde de Jemima, se placèrent en tas à la portière, semant la route tout du long de leurs oranges et de leurs sous. Quant à M. Toodle, il avait préféré faire le voyage debout derrière la voiture, mode de transport auquel il était plus accoutumé.